Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech ce soir, bien sûr, de 20h à 21h, avec Raphaël Grabli qui est avec nous.
Salut François.
Salut Raphaël, qui est rédacteur en chef adjoint de la plateforme Tech & Co. Tiens, à ce sujet, sachez que depuis aujourd'hui, une nouvelle verticale est apparue dans l'univers de BFM Business et de Tech & Co. Il s'agit de BFM IA. Juste un mot hein, sur cette plateforme qui regroupe en fait toute l'actualité de l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non. Voilà, c'est une vraie révolution qui méritait en fait d'avoir sa propre thématique dans l'univers BFM Business et Tech & Co.
Avec le lancement de BFM IA, on a regardé un peu ce qu'on produisait en contenu IA.
Et on en produit beaucoup.
Et en fait, on s'est rendu compte que, on en produit quand même énormément. Il y a tellement de choses à raconter. Donc voilà, c'est actif depuis quelques heures.
Exactement.
Sur le site de Tech & Co.
Voilà, vous tapez BFM IA, vous trouverez tout ça. Évidemment, avec beaucoup de contenu écrit, mais il y aura petit à petit, ça va évidemment s'enrichir avec des podcasts, des vidéos, de l'audio, etc., etc. À tes côtés, Raphaël, puisqu'on parle de podcasts, c'est Jérôme Colombin qui est là. Salut.
Salut François.
Mister Podcast. On peut l'appeler comme ça. Hein. Vous le retrouvez dans Monde Numérique. Mon camarade Jérôme qui, évidemment, toutes les semaines vous propose son podcast avec évidemment plein de bonus tout au long de la semaine que vous pouvez retrouver en audio et en vidéo. Et Jérôme Marin est avec nous aussi. Salut Jérôme.
Salut.
Fondateur de la newsletter Café Tech. Tout va bien, Jérôme ?
Tout va bien, merci.
On a deux Jérômes ce soir.
Exactement, ouais. On va devoir jongler un peu. Là.
Et quel va être
et deux pure players.
Qui va être le meilleur Jérôme ? Hein, c'est ça ?
On a moins de pression.
J'aurais dû mettre ça en titre. Qui va être le meilleur Jérôme ? C'était sympa quand même. Non, plus sérieusement, on va évoquer ensemble le DMA parce que j'aimerais avoir le point de vue de vous trois. On en parle évidemment tout au long de la semaine et c'est intéressant d'avoir des points de vue de tous nos chroniqueurs, de tous nos débriefeurs tout au long de ces derniers jours. Mais on va commencer par le règlement européen qui, vous le savez, ambitionne de mieux réguler les GAFAM avec donc cette disposition du DMA qui entre en vigueur aujourd'hui. Et vous le savez, chaque soir, on fait un focus sur l'un des géants de la tech et comprendre ce qui change concrètement pour eux. Nathan Cocampo nous rejoint sur ce plateau, comme chaque soir. C'est notre Mister DMA, en quelque sorte. Hein. Bonsoir Nathan, bonsoir. Merci d'être là. Et après Google et Apple, ce soir, on s'intéresse, je le disais, au géant Meta, les dispositions donc du DMA pour Meta.
Oui François, le plus gros changement, c'est sans aucun doute l'interopérabilité des messageries du groupe, WhatsApp, Messenger. Dans quelques heures, quelques jours peut-être, il sera possible de les utiliser pour envoyer des messages sur d'autres services de messagerie. J'entends par là qu'on va pouvoir écrire un message sur WhatsApp et l'envoyer à quelqu'un sur Signal ou Telegram. Une petite révolution, Apple de son côté a réussi à échapper à un tel changement et préserve sa messagerie e-message. On va attendre de voir ce que ça va rendre dans les faits. Vraisemblablement, il y aura une autre page, un autre onglet sur WhatsApp et Messenger d'où il sera possible d'envoyer ce message à une messagerie extérieure avec une option à valider pour l'utilisateur. Les services devraient rester toutefois assez limités. Pas d'appels vocaux ou de conversations de groupe pour le moment, mais on pourra envoyer des vidéos, des photos, des sons. Et quid de la sécurité de la messagerie ? Une des grandes forces de WhatsApp, vous le savez, c'est sa sécurité, une messagerie cryptée. Nous verrons donc quels sont les protocoles de chiffrement mis en place. En tout cas, les autres messageries devront signer un partenariat avec Meta qui n'autorisera que des messageries ayant le bon niveau de sécurité comme Signal. Autre changement de taille, le contrôle de données. Désormais, il faudra autoriser le partage de data entre notre compte Instagram et Facebook et on va pouvoir utiliser Messenger sans forcément avoir besoin de se connecter avec son compte Facebook. Même chose pour se rendre sur la marketplace de Facebook ou encore Facebook Gaming. On va pouvoir y accéder sans obligation donc d'avoir un compte Facebook.
Merci beaucoup Nathan pour toutes ces précisions. Voilà l'impact du DMA pour Meta. C'est quand même du lourd, hein, tout ce qu'on vit actuellement. Je le disais hier et je le disais aussi avant-hier, c'est une vraie révolution numérique que l'Europe est en train de mettre en place. Alors, il y a des bons côtés, il y a des côté un petit peu plus compliqué parce que on se rend compte que certaines dispositions peuvent avoir un peu des coups de billard à trois bandes hein, et des conséquences qu'on n'avait pas imaginées. Je ne sais pas si vous avez vu le business des hôteliers notamment, qui se retrouvent complètement chamboulés du fait que le DMA a impacté les recherches Google.
Et oui, bah oui. Il faut mettre les concurrents de Google à la recherche, à la proposition d'hôtels, de restaurants.
Et c'est etc. les comparateurs qui prennent le relais.
Les comparateurs arrivent, donc au niveau de la concurrence, c'est bien. Sauf que les hôteliers sont aussi des concurrents de Google, puisque quand vous faites une recherche pour un hôtel, un restaurant, il y a soit réservé par Google, soit vous allez sur le site de l'hôtelier, soit vous appelez, etc. Mais finalement, Google est un peu une forme de concurrence. Et donc, il y a les concurrents de Google avec, disons, les comparateurs. Et puis, les hôteliers, en fait, sont un peu plus bas qu'avant. Donc, alors, il y a aussi le cas Google Maps qui est intéressant.
Oui, on en a parlé hier.
C'est ça.
Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez essayé les deux Jérôme.
Ouais.
C'est étonnant quand même. Hein.
C'est une...
On va en parler avec Raph aussi, mais voilà, on n'a plus accès à Google Maps quand on vous tape une adresse. Vous avez cette petite capture d'écran.
C'est un peu flou d'ailleurs. Parfois, quand c'est un itinéraire, on peut y accéder sur mobile, sur ordinateur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est un peu flou le fonctionnement. Mais enfin, bien souvent, on arrive sur une image fixe. On ne peut pas cliquer, on ne peut plus sortir de Google, il faut ouvrir manuellement Google Maps.
Oui,
c'est tout le paradoxe de ce DMA, en fait. C'est-à-dire que pour plus de concurrence, on a moins de fluidité.
Et moins de praticité sur certains. Enfin, en tout cas, ça casse les habitudes qu'on avait.
Quand je dis fluidité, c'est ça. C'est un peu ce qui est l'essence de la tech. L'essence du numérique, c'est ça. C'est de tout fluidifier, que tout soit plus simple. Toutes les startups qui se créent, c'est pour résoudre des problèmes, des frictions, etc. Et là, on remet de la friction. Donc, c'est un peu dommage. Et alors, in fine, on va dire que ça va être nous, les utilisateurs, qui seront les bénéficiaires de ça. À court terme, on espère que ce sera les entreprises. Mais à court terme, pour les utilisateurs, il y a beaucoup de choses qui sont assez déplaisantes, quoi.
Mais quand on protège la concurrence, en fait, c'est vrai qu'on protège aussi le consommateur. Et le problème, c'est que pour moi, Google Maps, c'est l'exemple typique où on protège le consommateur, mais on emmerde l'utilisateur.
C'est ça.
C'est-à-dire que pour des raisons purement légales et de principe, mais de principe qui ont évidemment des raisons, voilà. Mais on va nuire à cette fluidité. Et pour moi, c'est un bon exemple. Un autre exemple, c'est Apple Pay, le NFC qui s'ouvre aux autres banques. Alors, on a eu une association européenne des banques qui a dit peut-être que du coup...
On va arrêter Apple Pay.
On pourrait arrêter Apple Pay.
En tout cas, arrêter le wallet d'Apple Pay.
Le wallet, alors après, c'est quand même des négociations commerciales de gré à gré, notamment aussi entre les banques et Apple. Mais c'est vrai qu'au final, c'est bien si on a plus de concurrence. Mais pour l'utilisateur, si sa banque sort d'Apple Pay, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être jongler, switcher entre les deux. On peut avoir tous plusieurs banques, parfois avec des néobanques. Et donc, in fine, dans l'utilisation, ça risque d'être un peu plus complexe. Et donc, moi, la grande question que je me pose, c'est ce DMA, comment il va être adopté par l'utilisateur qu'on est. Est-ce qu'on va l'appréhender d'une façon positive? On va dire plutôt, ça c'est intéressant, on peut avoir des évolutions favorables. Ou est-ce qu'au contraire, ça va irriter
des messages, excuse-moi, je te coupe, avec des messages assez subtils d'ailleurs de ces géants américains, on voit qu'Apple, il va évidemment à reculons et communique de manière très négative.
Alors ça, c'est en plus,
C'est-à-dire que si on est un peu naïf et dupe, et qu'on commence à lire un petit peu tous les textes d'Apple qui expliquent ce qui va se passer, ça fait flipper. Oui, si vous téléchargez des applications sur un autre App Store, vous risquez de perdre en sécurité. Enfin, il y a aussi cette petite musique de la psychose.
Ils sont vraiment sur la défensive.
Ils sont vraiment sur la défensive.
On va en parler notamment avec Epic Games.
Alors, on va en garder, regarder sous le pied d'Apple, parce que évidemment, on va en parler beaucoup. Jérôme, sur tout ce qu'on a évoqué là.
Non, mais après, alors oui, il peut y avoir des frictions sur des choses. Après, il y a d'autres choses qui vont apporter. Par exemple, quand on va être sur son navigateur, on va pouvoir choisir ses applications par défaut sur un iPhone.
Oui.
Logiquement. Donc ça, c'est le
parfait exemple du mauvais exemple. Excuse-moi, mais bien sûr, c'est
les deux Jérôme ne sont pas contents.
C'est l'histoire que nous, les vieux, on a connue du ballot screen sur Windows. Tu te souviens?
Oui.
Choisir son navigateur. Ok, ouais. Super. On choisit son navigateur. Explique-moi comment ma mère va choisir parmi 12 navigateurs alors qu'elle sait même pas le nom de celui qu'elle utilise
après,
aujourd'hui.
Elle va choisir. Je sais pas comment.
Elle
ça
va choisir
être...
au pif.
Elle va choisir le premier qui sera Safari. Mais si je veux,
alors tu sais,
non.
Excuse-moi.
Parce que ça s'affiche dans un ordre aléatoire.
Et moi, on me l'a demandé parce que j'ai fait la mise à jour avant-hier. Je ne sais pas si vous avez fait la 17.4.
Et
tu lances le navigateur Safari. Et après cette mise à jour, tu as une espèce de disclaimer qui apparaît où on te dit quel navigateur voulez-vous choisir.
Il y a 12 navigateurs. Il y en a 10 que tu ne connais pas.
Il y a Quant en premier. Moi, sur la première ligne, j'avais Quant.
C'est un ordre aléatoire.
Ah, c'est un ordre aléatoire.
Ouais, ça change à chaque fois.
Mais donc, c'est vrai que, et là où je rejoins Jérôme, c'est que nous, on est des... geek, on va dire. On sait comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que je pense que monsieur et madame tout le monde ne savent pas forcément que le navigateur, c'est Safari ou Chrome. Et ils vont peut-être dégrader leur expérience utilisateur s'ils choisissent le mauvais navigateur.
Déjà, ils comprennent
tu
pas pourquoi on leur demande.
Je sais pas.
Déjà, ils comprennent même pas pourquoi on leur demande.
Oui, parce que. Quand mais tu parles déjà. Ça existe sur Android aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as un
téléphone Android, non, mais il doit choisir. Il y passe au DMA. Enfin, il y passe à la réglementation.
C'est des. Peut-être qu'au départ, les gens vont se demander ce que c'est, mais après, c'est juste des habitudes à prendre, en fait. Et donc, si madame tout le monde ne connaît pas quel navigateur elle va demander à choisir, elle va demander à son enfant.
Oui, mais je pense, Jérôme, que ça nécessite une pédagogie supplémentaire que pour l'instant, personne ne fait.
Attends. Parce qu'ils ne veulent pas la faire aussi.
Non, mais oui, alors, pas effectivement.
Mais est-ce que ça serait pas, je sais pas, moi, la Commission européenne de la faire, la pédagogie, à ce moment-là?
T'es obligé d'être sur l'écran de l'utilisateur pour le faire.
Oui, mais il pourrait dire
c'est bah, Apple, écoutez, Google voilà. qui ont la main et Microsoft.
Oui, mais regarde bien, aujourd'hui, c'est plutôt les Américains, en tout cas, ces grands groupes américains qui communiquent et peu finalement la Commission européenne.
Qui a la main, c'est toi quand tu as tes navigateurs qui s'affiche. Il y a un message qui va s'afficher pour expliquer le contexte. Pourquoi? Et comme quand Facebook te demande de croiser tes données avec Instagram depuis quelques jours, ils expliquent.
Non, mais
c'est eux qui ont la main, c'est eux qui décident de. Eux qui pourraient expliquer.
Oui, mais tu n'es jamais conscient des enjeux. Typiquement, cette histoire de donner son accord, est-ce que tu veux bien partager tes données? Mais qui est capable de mesurer les enjeux de
ce qu'on va faire? C'est comme pour le RGPD.
Exactement, demande à 100 personnes dans la rue c'est quoi le RGPD. Nous, on va dire c'est la protection des données.
C'est le truc qui nous enquiquine. On est obligé de cliquer sur OK.
C'est le truc emmerdant. On est obligé de cliquer sur OK avec les 12 fenêtres de cookies. Mais pour beaucoup de gens, c'est ça le RGPD.
Mais tu sais, cet après-midi, je discutais avec notre ami commun Bruno Guglielminetti à Montréal.
On salue, je sais qu'il nous écoute et qu'il nous regarde.
Voilà, et qui n'est plus dans le même Internet que nous. Parce que ça, c'est une réalité aussi. C'est que nous, notre Internet, il ne va plus ressembler à l'internet des autres. Et il me dit, moi, j'utilise souvent un VPN pour me faire passer pour un Français, pour aller sur le web français.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, je vois des consentements, des demandes de consentement partout. Et il est bien content ensuite de revenir sur son internet québécois.
Mais est-ce que, après Jérôme, évidemment, je te donne la parole, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'il y ait, on va dire, une belle campagne de communication de la part de la Commission européenne, se payer un 30 secondes à la télé, à la radio, après, pour expliquer, voilà, le DMA arrive.
Et tu peux comment, pas expliquer comment, ça en 30 secondes.
Qu'est-ce que tu dis en 30 secondes?
Tu peux décliner des différents spots avec, par exemple, chez Meta, vous avez un groupe WhatsApp. Et depuis WhatsApp, vous allez pouvoir partager d'autres messageries. Vous avez un iPhone, et bien dorénavant, vous avez la liberté de télécharger d'autres applications depuis des stores alternatifs. Des choses, ce qu'on fait nous, alors c'est notre métier. Mais je pense que pour toucher un maximum de gens.
Tu fais ça maintenant, il n'y en a pas de store alternatif. Tu vois, c'est bizarre.
Plein d'informations sur lesquelles ils auraient pu communiquer.
Je veux dire un truc, tu dis aux gens, vous avez Messenger, vous pouvez parler avec les gens de WhatsApp. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et alors?
C'est des habitudes.
Qu'est-ce que ça peut me faire?
Tout à fait.
Et là, on en parlait tout à l'heure, justement, des messageries. Alors pour le moment, c'est quand même le flou total. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. C'est censé être quasiment disponible. On ne sait pas du tout à quoi ça ressemblait. Moi, je suis assez curieux de voir vraiment qui va utiliser ça. Et peut-être que les gens vont se l'accaparer et peut-être que ce sera fait de façon intelligente. Mais le problème, c'est que est-ce que Meta intéresse que ça se fasse de façon intelligente, sachant qu'au passage, il y a quand même pour moi une grosse défaite de la Commission européenne, c'est que finalement, les deux messagerie concernée, c'est quoi? C'est Messenger et c'est WhatsApp. Ce qui aurait été vraiment nouveau, ce serait qu'il y ait iMessage. Mais vu qu'il n'y a pas iMessage, franchement, entre Messenger et WhatsApp,
il y aura peut-être les autres. Il y aura Telegram, peut-être Signal.
Non, en fait, il y a que.
Je trouve ça intéressant, le fait de se dire qu'on peut avoir une messagerie qui agrège, enfin une messagerie générique, donc en l'occurrence WhatsApp.
Encore une fois, ça dépend comment c'est fait.
Qui agrège les autres messages.
Comme le RCS, en fait.
Comme le RCS.
Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que le RCS, c'est le nouveau SMS. Oui. C'est un autre protocole de communication. Tu n'as pas besoin d'application pour avoir des SMS. Là, finalement, ça va concentrer toutes tes messageries. Et c'est vrai que Dieu sait qu'on commence à en avoir beaucoup. Hein. Ouais. Telegram, Signal, WhatsApp, Messenger, etc. Dans un seul et même flux. Mais visiblement, ça va pas être aussi facile que ça.
Ça dépendra de Meta. S'ils ont envie d'être de bonne volonté.
Juste sur la commission, en fait, aujourd'hui, le rôle de la commission, c'est pas forcément de communiquer sur le DMA. Le rôle, ça va être d'appliquer le DMA. Donc, on a vu Thierry Breton qui a déjà commencé à montrer un peu. De le faire appliquer.
Oui.
Et surtout, d'être sûr que si c'est pas bien appliqué, parce qu'en fait, le DMA, c'est juste des principes. on ne dit pas il faut faire ça, ça et ça. C'est des principes et chaque entreprise fait ce qu'il veut en fait pour respecter ces principes. Et on a vu Apple, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui a des principes, qui a des règles qui sont assez strictes. Et donc le rôle de la commission, ça va être sûr que les règles qui ont été mises en place par les gros acteurs sont conformes au DMA et ça va être vraiment le gros chantier aujourd'hui dans les prochains mois.
Ok,
mais moi je trouve ça pose finalement le problème des réglementations européennes d'une manière générale, parce que là maintenant on commence à avoir du recul, le DMA, le DSA, le RGPD, etc. Alors ça apporte sans doute plein de choses, mais on voit aussi à quel point ça alourdit le truc. Et moi j'ai un peu l'impression que Thierry Breton, qui voulait à tout prix qu'on sorte du Far West, ok, mais si c'est pour tomber dans l'URSS, je sais pas si c'est une bonne idée.
Exagère quand même.
Ouais.
Je force un peu le trait volontairement.
Toi, tu veux être repris sur Twitter, en fait. J'ai l'impression. Jérôme, il veut sa petite punchline du jeudi soir.
Non, mais par contre, là où tu as raison, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de politique. Voilà. Autour de ça, il y a énormément de politique.
C'est beaucoup de réglementaires.
C'est beaucoup de réglementaires.
Non, mais est-ce que c'est pas aussi un signe plutôt global de dire c'est terminé, vous pouvez pas faire ce que vous vouliez? Enfin, et que maintenant, même si on met des règles, et que ces règles, on sait qu'elles sont presque illusoires, et qu'il y en a certaines qui vont enquiquiner les autres, les citoyens européens, d'autres qui vont peut-être servir à des choses. On parlait de l'App Store, on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement.
Oui. Peut-être qu'on aura des App Store alternatifs.
On peut avoir des bonnes nouvelles. Oui, finalement, peut-être que dans 6 mois, on reviendra, et que cette messagerie unifiée WhatsApp, ça sera une super nouvelle. Peut-être que,
il y aura plein de bonnes nouvelles.
De bonnes choses. Là, on parle à froid, en fait. On ne sait pas trop comment tout ça va évoluer.
Et puis, il faut prendre le DMA comme un brouillon. Je veux dire, c'est réglementation.
C'est un brouillon.
C'est un brouillon bien avancé.
C'est l'étape 1, on va dire.
C'est l'étape 1.
C'est un cadre.
Voilà, c'est des règles qui sont faites pour évoluer. Et d'ailleurs, qui ne s'appliquent pas toutes en même temps. D'ailleurs, il y a Apple qui a communiqué sur des évolutions à venir pour le DMA. Il parle d'évolutions en 2024, mais enfin aussi en 2025, notamment pour switcher, pour passer d'un iPhone à un Android. Et donc, je veux dire, c'est le début d'un chemin. Après, vers où ça mènera, on ne le sait pas encore précisément. Mais l'idée, moi je trouve que l'idée globale de dire ce n'est pas le Far West, que ce soit par le RGPD, par le DSA, par le DMA, et je trouve que ces trois règlements qui se complètent bien.
On peut
pas ne rien faire non plus. Voilà. On peut pas ne rien faire. Moi je trouverais ça choquant de ne rien faire, sachant qu'on est en Europe. Je veux dire, tu peux dire à la limite aux Américains, ne rien faire c'est protéger des pépites américaines. Mais nous on est en Europe. Au moins, qu'on avance là-dessus.
Le problème, c'est qu'on est en Europe et on ne peut pas se battre avec les mêmes armes.
Mais au moins qu'on se défende.
Oui.
Voilà, on ne peut pas être offensif, au moins qu'on se défende.
Alors, restons chez Apple parce que c'est très intéressant. On voit que c'est tendu chez Apple en ce moment. On voit que tout ce dont ils ont communiqué, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place avec le DMA, ils le font vraiment à contre-courant, à marche forcée, parce qu'ils sont obligés. Et alors, on peut évoquer pas mal de sujets, hein, l'éventualité d'un App Store alternatif, mais il y a aussi cette actualité qui est toute récente, c'est le fait que Apple a retiré le compte développeur d'Epic Games, qui voulait, parce que justement le DMA est en place, maintenant lancer enfin son Fortnite, qui n'est plus sur iPhone depuis 3 ans, ouais. Et ils sont dit, ben voilà, ça y est, là maintenant on a notre compte développeur, on va pouvoir créer notre petit App Store alternatif et lancer Fortnite. Et bien vous savez quoi, et vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, Apple a carrément supprimé ce compte développeur qui est le point de départ pour n'importe quel développeur, c'est la porte d'entrée, le pass pour pouvoir, même avec le DMA, créer son store alternatif.
Oui, il l'avait supprimé en 2020, en août 2020, je crois.
C'est ça.
Parce qu'Epic Games avait décidé de proposer un moyen de paiement alternatif dans l'application Fortnite, ce qui est interdit par les règles d'Apple, par le contrat. Donc Apple a dit, c'est Epic Games qui a ouvert les hostilités, puisqu'ils ont fait quelque chose, ils savaient que c'était interdit par le contrat, donc ils savaient très bien ce qui allait se passer derrière. Donc évidemment, le compte développeur d'Epic Games a été supprimé donc en août 2020, donc ça fait 3 ans et demi.
Bah, c'était au début de la polémique.
Exactement. Là, avec le DMA, Apple a voulu montrer un signe d'ouverture aussi.
Ce qu'ils disent. Hein. Alors, eux, ils disent qu'en fait, c'est la filiale suédoise d'Epic Games qui a demandé un compte développeur, qu'il a été accepté, mais pas qu'il a été accepté comme ça, comme n'importe quel autre compte développeur.
Oui, alors ils sont rentrés par la fenêtre, quoi.
Voilà, et que Apple dit, quand le management a pris connaissance qu'Epic avait créé son compte développeur, on a dit c'est pas possible.
Oui, t'as raison, c'est vrai que ça a évolué. Au début, on s'est dit, ils ouvrent la porte, et puis finalement, on s'est dit, non, en fait, ils n'avaient peut-être pas vu. j'en sais rien, c'est peut-être un mélange des deux aussi. Et donc là, non, Epic Games...
Tu vas pas me dire qu'Apple ne voit pas qu'un compte Epic Games, le développeur, est ouvert, même en Suède.
J'ai un peu du mal à le croire.
Ou alors c'est qu'il y a vraiment des trous dans la raquette
en termes de système
de surveillance.
Le compte a été créé en février. Donc ça fait quand même un mois, et comme par hasard, ça tombe la veille de l'application
du DMA. Donc là, à nouveau, ils l'ont supprimé, à nouveau, ce compte-là.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le patron d'Epic Games dit que... Alors évidemment, il est fou de rage. Il dit que c'est une vengeance d'Apple, parce qu'on a dénoncé les pratiques déloyales et illégales, et que finalement, si Apple est enquiquiné, c'est un peu à cause de nous. Ou grâce à nous. Et donc ils se disent, ils veulent nous se venger et nous enlèvent ce compte développeur.
Je pense que c'est la seule façon de l'expliquer, ça, en fait. C'est de la vengeance, c'est de la rancœur.
Mais c'est puéril, on est d'accord.
Mais c'est puéril, mais si. Enfin, il y a eu quand même deux procès. Epic a mis Apple. Tim Cook a témoigné deux fois devant la justice américaine. Deux fois, il a dû faire face à des avocats. On a des informations confidentielles d'Apple qui sont sorties à cause de ces procès. Donc il y a une vraie rancœur de la part d'Apple. Et ça ne fait pas sens, en fait, de supprimer le compte d'Epic parce que. À part du côté vengeance, hein, parce que tu donnes des arguments supplémentaires à tous ceux qui disent qu'Apple veut pas respecter le DMA. Et Thierry Breton a dit la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de s'assurer de se saisir du dossier Apple Epic.
Il a tweeté.
Et donc ils donnent des armes, en fait. Et donc pour moi, c'est juste de la vengeance. Voilà, vous nous avez embêtés pendant 4 ans. Et ben voilà, nous on va faire la même chose.
Alors Thierry Breton, bien évidemment, on n'a pas tardé de réagir.
Là, il y a une demi-heure.
Il y a un tweet. Alors il dit ceci: sous le DMA, il n'y a pas de place pour les menaces des gardiens. De faire taire les développeurs. Enfin, les gardiens, c'est les gatekeepers, donc. Ouais, j'ai demandé à nos services d'examiner en priorité la résiliation par Apple du compte développeur d'Epic. Voilà, c'est le moment de vous exprimer pour tous les comptes développeurs sur les solutions de conformité des contrôleurs d'accès. En gros, ça veut dire, dès que vous avez un souci, dès que ça coince, dites-le nous.
Ouais, enfin, ça veut dire qu'on est entré en politique, là. Parce que là, ça veut dire...
Ouais, mais il est dans son rôle, Thierry Breton, là. Enfin,
il n'est pas dans son rôle. Là, il désigne Apple.
Bah,
je suis du côté des développeurs, je suis contre Apple.
On va étudier le dossier.
Non, la formulation. Attends, quand on lit, franchement, que ceux qui nous écoutent ou nous regardent lisent ce tweet, je pense que tout le monde sera d'accord.
Il dit sous le DMA, il n'y a pas de place pour les menaces des gatekeepers de faire taire les développeurs. Donc c'est vrai que c'est quand même.
C'est la démarche d'Apple.
On dirait qu'Epic Games, c'est Edward Snowden.
Ça doit être hyper tendu entre Thierry Breton et.
Mais justement, et pourquoi?
Je ne sais pas comment ils discutent.
Mais parce que pour moi, ça s'explique aussi. Par le fait qu'Apple traîne autant des pieds. Et tu sais, quand on avait annoncé l'App Store alternatif, avec la fameuse condition de renoncer à l'App Store classique et puis de verser pour les très grosses entreprises, beaucoup.
Au bout d'un million de téléchargements, 50 centimes
d'euros. 50 centimes par utilisateur par an.
Ce
qui est complètement dissuasif.
Et ça tue
Mais c'est ce qu'on s'était dit le soir même où il l'avait annoncé. Tu sais, je t'avais dit, j'arrive pas à y croire. J'allais dire, ça, c'est ils ouvrent les hostilités et c'est une déclaration de guerre. Et pour moi, ces 50 centimes par an, par utilisateur, c'est un petit doigt d'honneur quand même au DMA. Voilà. Et je pense que ce jour-là, Thierry Breton a dit Apple, entre guillemets, je vais me les faire. En fait, par contre, le côté vengeance, bon, j'imagine que ça passe quand même certaines strates de juridique. J'ai du mal à croire. Chez Apple, vu l'enjeu.
Non, mais après, regarde, les règles qu'ils ont fait là dont tu parles, c'est pareil. En fait, ils testent les limites du DMA. Je pense qu'ils testent les limites. On va voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce que les 50 centimes, c'est accepté ou pas? Est-ce que supprimer le compte d'Epic, c'est accepté ou pas? Ils testent les limites du DMA et ils testent la Commission européenne. Est-ce que la Commission européenne va vraiment sévir? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Ça vient de rentrer en vigueur. Il y a un petit indice. Apple vient de prendre quasiment 2 milliards d'euros d'amende à cause de ce qui s'est passé avec Spotify. Donc, il y a quand même un indice que la Commission européenne commence à s'intéresser de près à ce qui se passe chez Apple. Apple, aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas eu encore de procédure antitrust contre Apple. Il y en a eu contre Facebook, il y en a eu contre Google, il y en a eu contre Microsoft, il n'y en a pas eu contre Apple encore. Donc il y a peut-être un sentiment aussi d'impunité, de dire on est tellement gros.
C'est ça.
Peut-être que
Apple est en train de devenir le méchant.
L'USB-C,
ça aussi. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi. Thierry Breton, l'Union Européenne, veut se dire on va faire flancher Apple. Apple résiste. Et là, je pense qu'on est entré dans une autre phase. Avec l'USB-C, ça commençait un peu à titiller. Avec l'histoire du DMA,
encore l'USB-C. Moi, je pense qu'Apple il serait allé de toute façon.
Mais ils y seraient allés,
parce que tu vois là, c'est carrément une décision mondiale, l'USB-C.
En fait, l'USB-C, ils étaient obligés pour l'iPhone 16 ou 17, ils y sont allés avant.
Oui, ils sont allés avant.
Symboliquement, l'UE dit on a fait plier Apple. Ils ont sûrement rien fait plier du tout.
Non. Ils ont peut-être accéléré le calendrier.
Mais on entre, je trouve, dans une phase là d'affrontement entre la Commission européenne et Apple.
Il y a juste à voir les communiqués d'Apple. T'en parlais tout à l'heure. Généralement, quand il y a une amende, par exemple, le communiqué c'est on accepte, on n'est pas d'accord avec les conclusions, on va faire appel. Là, le communiqué d'Apple était très très agressif.
Ouais, très offensif.
Il signe une collusion entre Apple et Spotify, entre la Commission européenne et Spotify. Sur le DMA, c'est pareil. Ils ont commencé leur communiqué sur le DMA en disant c'est une catastrophe, ça va mettre en péril la sécurité d'utilisateurs. Donc ils sont vraiment un ton très agressif que n'ont pas les autres géants américains, qui sont beaucoup plus dans la collaboration.
Non, c'est incroyable. Je trouve que quand on regarde ça avec du recul, on a vraiment l'impression, encore une fois, de revivre des choses qu'on a connues. C'est l'histoire de Microsoft dans les années 90. Et c'est vrai que pour Apple, je pense que ce qui leur tombe sur le coin de la figure, c'est un vrai choc culturel. C'est une entrave. Enfin, c'est un accro. Ça s'attaque à leur fierté.
Et puis, ils n'ont jamais vécu ça, en fait.
Ils n'ont jamais vécu ça.
Apple a toujours fait ce qu'ils voulaient faire.
Exactement. Apple a besoin de tout maîtriser.
Et tu vois
du processeur, voilà, Microsoft, du processeur,
bien
à la moindre icône.
Tout à fait, tout à fait.
Et quand tu as Thierry Breton, Thierry Breton, je symbolise évidemment.
Non, mais bien sûr, la Commission européenne.
Et quand tu as la Commission européenne qui a dit, en fait, je vais mettre mon nez, tu vas ouvrir le capot et je vais mettre mon nez dans le fonctionnement de tes produits, ça pour Apple, pour un Microsoft, à la limite, bon.
Parce que Microsoft, justement, ils ont déjà
ils ont l'habitude, on va dire.
Oui, et puis
ils voient les choses différemment.
Et puis c'est aussi une culture d'entreprise. C'est aussi une culture d'entreprise.
Mais c'est aussi une histoire.
La culture d'entreprise d'Apple, c'est vous n'ouvrez pas. Vous n'ouvrez pas. Et là, ça peut que mal se passer pour le moment.
Vous n'ouvrez pas et surtout, vous nous embêtez pas, surtout.
Oui,
je pense qu'ils ont. C'est aussi ça, le fait qu'il y ait un régulateur qui commence à s'intéresser à ça, ça doit les titiller un peu.
Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause. Il est déjà 20h30. Ça va vite. On a beaucoup de choses à dire sur le DMA. On va y revenir dans un instant. Et puis, on va aussi s'intéresser à d'autres sujets d'actualité intéressants, puisque, vous le savez, il y a cette nouvelle proposition de loi aux USA pour forcer la vente de TikTok. Ça aussi, c'est quand même un truc énorme. TikTok pourrait fermer dans 6 mois.
Aux États-Unis, juste.
En tout cas, aux États-Unis. 170 millions de comptes. On va en parler dans quelques instants. Spotify aussi, qui va augmenter ses prix seulement en France en raison d'une nouvelle taxe. Seulement en France. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et Spotify aussi est remonté contre la France à ce sujet. Bref, il y a plein de trucs hyper intéressants. Vous restez avec nous. Le débrief de l'ActuTech, juste après l'info éco. On est de retour. À tout de suite.